Parole. Le podcast d'Entretien d'Outre-mer la première, présenté par Cécile Baquet.
Bonjour Raphaël Confiant.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes l'auteur d'une soixantaine de livres. Votre petit dernier s'intitule Le bal de la rue Blomet. Certains vous comparent à Balzac et vous attribuent la création d'une comédie créole à l'instar de la comédie humaine. Nous allons explorer une partie de votre œuvre dans Ma parole, mais avant cela, un petit détour en enfance s'impose. Pour vous, cela s'est passé en Martinique, d'abord dans le nord-est de l'île, au Lorrain. Vous y êtes né en 1951. Est-ce que vous y avez vécu longtemps dans cette commune, le Lorrain ?
Ben, j'y ai vécu une dizaine d'années qui ont été des années formatrices, quoi. Tout mon imaginaire provient de ce lieu où mes arrière-grands-parents et mes grands-parents avaient une petite distillerie de rhum. Donc je dis souvent que je suis né dans l'odeur du rhum. J'ai souvenir de ces champs de canne, de la récolte, de la fabrication du rhum et tout ça. Et après, ma famille est allée vivre dans la capitale, à Fort-de-France. Mais c'est les années qui sont formatrices. Ça vous marque à jamais. Donc.
Et comment vos parents se sont-ils rencontrés?
Alors, c'est très étrange parce que mon père est un métis noir chinois, puisque sa mère est chinoise et son père noir. Alors, les Chinois sont arrivés en Martinique après l'abolition de l'esclavage, à partir de 1853, lorsque les Noirs ont dit « bon ben nous, on est libres, maintenant on ne veut plus couper la canne à sucre ». Alors les planteurs blancs ont fait venir des Indiens de l'Inde, beaucoup d'Indiens de l'Inde, ils ont fait venir des Chinois aussi. Et ma grand-mère, la mère de mon père, est une descendante de ces Chinois de... Et ces gens-là se sont établis. Alors, on les a fait venir pour couper la canne à sucre, mais ils ont très vite fui la plantation. Et ils ont ouvert des commerces dans les bourgs et les villes. Donc, ma grand-mère avait un commerce à Fort-de-France. Et elle s'est mariée à un noir, donc ça a fait un mix de noir chinois. Tandis que ma mère est une mulâtresse de la campagne, du Lorrain, et vivant dans l'univers de la plantation, du rhum, de la canne à sucre. Alors, normalement, ces deux personnes n'auraient pas dû se rencontrer. Mais elles se sont rencontrées à l'école normale. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on appelle ça l'IUFM, enfin, les trucs qui forment les instituteurs à l'époque. Et ils se sont rencontrés à l'école normale. Et bon, ils se sont aimés. Et cette dame de la campagne profonde, à une époque où il n'y avait pas autant de routes qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Et c'est Maria qui est un citadin, quoi. Mon père, c'était vraiment quelqu'un qui est un citadin. Et c'est une rencontre improbable, quoi.
À Fort-de-France.
Oui.
Est-ce que vos parents étaient très présents dans votre éducation?
Ils
étaient instituteurs, tous les
deux. Oui,
temps.
Oui. Mon père était prof de maths et ma mère était institutrice. Et donc, ils n'étaient pas très sévères. Moi, je les remercie d'une chose, c'est qu'ils ne nous ont jamais empêchés, nous, les enfants, nous étions quatre, de parler créole. Parce que dans la petite bourgeoisie antillaise, il y avait l'interdit du créole. Il fallait parler français, uniquement français. Et jamais mes parents ne nous ont dit interdit de parler créole. Alors il est vrai qu'à la maison, nous ne parlions pas créole. Hein, mais nous l'avons appris en dehors de la maison. Et il nous arrivait de lancer une phrase ou deux, mais jamais, à aucun moment... Et ça, c'est vraiment... Parce que la langue créole, même si elle est ma deuxième langue, en fait, hein, parce que la première langue que j'ai apprise, c'est le français, c'est une langue matricielle. Parce que c'est elle qui traduit l'identité antillaise profonde. C'est très simple. Quand un antillais est fâché, même s'il est 100% francophone, quand il est fâché... Ben oui, hein. Le créole sort, on voit les bourgeoises en voiture, elles font un petit accrochage, il y a quelqu'un qui leur fait quelque chose sur la route, et ces femmes ne parlent jamais créole dans leur vie, et elles s'engueulent. Le gars en créole, c'est tout à fait étonnant, ça montre des matrices, c'est profond, quoi. Et donc, oui, ils étaient présents, et quand j'ai voulu faire des études, il n'y avait pas d'université à l'époque, en Martinique, dans les années 70. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Alors, je lui ai dit, je vais faire Sciences Po. Il m'a dit, mais c'est quoi Sciences Po? Parce que bon, ça voulait rien dire aux personnes. En fait, je suivais une bande de petits jeunes qui avaient trouvé marrant de faire Sciences Po à Aix-en-Provence.
Oh, mais là, vous allez un peu vite, hein, pour moi. Donc, ils vous suivaient plutôt bien dans votre éducation?
Oui, c'est-à-dire que... Ils vérifiaient nos devoirs, etc. Quand on avait des difficultés, alors moi j'étais nul en maths, donc mon père il a voulu faire de moi un matheux, comme tous les pères. Hein. Donc chaque soir j'avais droit à un tableau noir, et il avait des espèces de petites palettes en bois, et à l'époque c'était pas interdit de, de frapper les enfants, dans les années 60, 70. Et donc il a vainement essayé de... Bon... Et très vite, il a compris que je n'allais pas suivre une voie scientifique. Donc, il m'a laissé et poursuivre jusqu'au bac où je me suis vengé. Il existait une section qui s'appelait A5, où il n'y avait aucune épreuve de maths. Et où il y avait 5 langues. Donc, j'ai été faire cette section. Et quand il a vu que j'étais dans cette section, il n'a pas été content du tout. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? Latin, français, anglais, grec, italien, espagnol? Mais alors, apprends l'ouzbek, alors, pendant que tu y es. Pour ne pas faire de mathématiques.
Quels autres membres de votre famille vous ont marqué durant votre enfance au Lorrain? Vous évoquez notamment dans votre deuxième roman, écrit en français, intitulé « Eau de café », la figure de votre marraine qui tenait une boutique.
Absolument. C'est la sœur de ma mère et c'était une forte femme qui a été célibataire hein, toute sa vie et qui tenait cette espèce d'épicerie qu'on appelle aux Antilles boutique et qui a été une deuxième mère pour moi. Parce qu'une fois que je suis allé vivre en ville, enfin que ma famille a vécu en ville, nous passions les grandes vacances à la campagne. Et à cette époque, l'école commençait en octobre. Et même ici, hein, c'est-à-dire qu'il y avait 3 mois de vacances, ce qui paraît énorme aujourd'hui. Donc pendant 3 mois, j'abandonnais l'univers urbain et j'allais de fin juin à début octobre à la campagne, et où je trouvais un autre univers, totalement créolophone, quasiment créolophone, hein, et avec, des pratiques culturelles, l'hindouisme créole par exemple, la sorcellerie, le quimbois, enfin toutes ces choses qui n'existaient pas en ville et qui m'ont profondément marqué et qui ont nourri mon imaginaire, qui est celui de quelqu'un qui avait un pied dans la ville, complètement francisé, presque, et puis un pied dans la campagne créole. Quoi.
Et cette tante Lily?
Ben c'est elle, hein, c'est cette figure extraordinaire qui... Parce que quand vous teniez une boutique à l'époque, une épicerie, il y avait ce système de carnet. J'en avais pas d'argent. Donc, ils étaient mal payés, ils travaillaient dans les plantations, et puis ils étaient payés au lance-pierre. Et donc, on leur faisait crédit. Et donc, il y avait des carnets sur lesquels on écrivait, elle a acheté 1 litre d'huile, une boîte de, je sais pas moi, de beurre, de margarine, enfin bon. Et elle tenait les gens, en fait. Hein, c'est après que je me suis rendu compte de ça. Elle pouvait leur dire n'importe quoi, parce que ces gens savaient qu'un jour ou l'autre, elle leur disait, écoute, ça fait 2 mois que tu n'as pas réglé ta note... Elle avait déjà une forte personnalité et en plus, elle possédait cet instrument qui lui permettait... Mais je n'en étais pas conscient à l'époque. Hein. Et même moi, ça me faisait marrer quand elle engueulait des personnes beaucoup plus imposantes qu'elle et tout. Mais je ne comprenais pas bien qu'elle était... de quelle arme elle disposait. C'était une arme redoutable quand même. Hein.
Dans le Lorrain de votre enfance, il y avait beaucoup de distilleries de rhum. En quoi l'histoire de votre famille est liée à cette activité? Votre grand-père, c'est ça, possédait une distillerie?
Oui, mon arrière-grand-père aussi. C'est-à-dire que, au départ, les distilleries appartenaient uniquement aux blancs créoles, aux béquets. Et la classe intermédiaire, appelée les hommes de couleur libre, des métis comme moi, les gens mélangés de noir, de blanc, de toutes sortes de choses, ont commencé à acquérir du bien, des terres. Et alors, ils n'ont pas eu de grandes distilleries, mais c'était des petites distilleries. Ils n'avaient pas de marque de rhum à leur nom. Donc, ils fabriquaient du rhum et ils le vendaient aux blancs créoles de l'endroit. Alors, lui, il avait sa marque, hein, avec machin. Et
c'était quoi la marque?
Ben, c'était Madco. C'était la marque qui existe toujours, hein. Et donc, nous n'avions pas de rhum à notre nom. Et il y avait beaucoup de petites distilleries. On les appelait mulâtres à l'époque, hein, c'est-à-dire métis, possédées par des métis. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, la vigne s'est effondrée parce que tous les gens partaient à la guerre et tout. Et le rhum en a profité. Il servait de médicaments, de réchauffant, tout ça. Donc, il y a eu une explosion de la production de rhum pendant la Première Guerre mondiale et même un peu après. Et puis les viticulteurs, surtout du Bordelais, ils ont dit stop, hein. Nous on l'a redémarré, c'est quoi ce rhum qui nous bouffe tout le marché? Donc ils ont fait prendre une loi par le gouvernement français qui s'appelle la loi du contingentement. Donc l'Assemblée nationale a contingenté le rhum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un certain quota de rhum qui arrive sur le marché français, sans taxe, donc il est comme le vin. Et puis si on dépasse ce quota, il est lourdement taxé. C'était pour protéger le vin qui est en train de renaître. Qu'ont fait les blancs créoles martiniquais? Ils ont accaparé la totalité du quota non taxé. Et ils ont laissé le rhum taxé aux petites distilleries. Donc la distillerie de mon grand-père a fermé, mais ma mère me disait souvent, quand j'avais fini de faire mes cours à 16h, je me douchais et à 16h15, je collais des étiquettes sur les dames jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez une dame jeune, une espèce d'énorme bouteille un peu ronde. Elle collait des étiquettes sur les... Et moi, enfant, j'ai le souvenir de cela, parce que ça a dû fermer quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Mais ce monde de la plantation de canne à sucre, qui a totalement disparu, hein, il existait depuis 3 siècles.
Et vous avez des bons souvenirs de l'école au Lorrain?
Oui, j'ai de bons souvenirs parce que j'étais privilégié. J'étais le seul qui savait parler français. Et donc, j'avais forcément les meilleures notes. Et bon, d'ailleurs, aucun de mes petits camarades n'a dépassé le certificat d'études. À l'époque, le certificat d'études, c'était le sésame. Alors là, on parle des années 60. Hein. C'est quand vous aviez le certificat d'études, bon... C'est parce que leurs parents étaient des coupeurs de canne, des travailleurs, des muletiers, enfin des gens qui sans moyens. Et je n'avais aucune qualité supérieure à eux, simplement que mes deux parents étaient enseignants et que je parlais français. Et que bon, l'école était entièrement en français. C'était un peu comme en Bretagne et tout. Il y avait des affiches sur dans la cour partout. Il est interdit de parler créole et de cracher par terre. Dans la cour de récréation. Donc, ces élèves étaient traumatisés parce que la seule langue qu'ils parlaient couramment, c'était le créole. Or, une fois qu'ils avaient mis les pieds à l'intérieur de l'école, c'était interdit. D'ailleurs, les maîtresses avaient une espèce de petit collier qu'elles vous mettaient au cou. Donc, elles surveillaient le premier qui parlait le matin, elles lui mettaient le collier. Quitte à, pour lui à repérer un autre qui parlait créole et à lui mettre le collier. Et à 16h, à l'époque, on pouvait battre les enfants. Hein, la maîtresse le faisait. Le dernier calculier, là, venait, on lui donnait une raclée. Et donc, bon, c'était un traumatisme pour ces enfants-là. Mais j'étais enfant, moi, je ne m'en rendais pas compte. Hein. Je ne m'en rendais pas compte.
Et à 10 ans, départ pour Fort-de-France, donc toute la famille est partie à la ville. Est-ce que vous vous y sentiez aussi bien à Fort-de-France que dans votre commune du Lorrain?
Non, au départ, non. Parce que pour moi, c'était quand même un monde étrange, où il n'y avait pas partout l'électricité, parce que dans nos campagnes, à l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Hein. Partout, c'était asphalté. Et partout, ça parlait français. Alors bon, c'était pas étrange pour moi, mais enfin, quand même, je n'étais pas élevé dans un milieu où j'entendais autant de français. Quoi. Et puis, c'était un monde qui tournait le dos, mentalement, psychologiquement, à la culture antillaise, quand même. Hein, parce que c'était l'époque où on a appelé ça l'assimilation, où les gens voulaient à tout prix s'assimiler à la France et abandonner tout ce qui est antillais. Donc la première chose qu'ils voulaient abandonner, c'était la langue, quoi, le créole. Donc je n'entendais pas autant de créole. Et puis les femmes s'habillaient à l'européenne et pas comme avec le costume créole qui aujourd'hui malheureusement a disparu, avec le madras et toutes ces choses à la campagne, c'était comme ça. Et donc, ce monde-là, je m'en suis défié au départ. Et puis, vous savez, vous êtes gamin, vous êtes au lycée, bon, vous avez des copains, tout ça. Mais sans mon ancrage rural sur la plantation de canne à sucre, je n'aurais jamais pu... Parce que c'est ça qui m'a vraiment forgé. Et mes parents ne s'en sont même pas rendus compte. C'est quand ma mère a lu mes livres, elle me dit, mais où tu as pris tout ça? Parce qu'elle était persuadée que c'était elle... qu'à partir de ma génération, que tout ça, c'était fini, quoi.
Et est-ce que durant cette enfance et adolescence à Fort-de-France, on était dans les années 50-60, des événements vous ont marqué?
Alors, des événements qui m'ont marqué. Il y a eu une émeute en 1959, Il y a eu plusieurs morts, incendie de commissariat, etc. Et couvre-feu pendant plusieurs jours. Bon, j'étais gamin, je sais que mes parents ont respecté le couvre-feu, et que... mais je ne savais pas pour quelles raisons il y avait ces émeutes. Mes parents ont toujours évité de parler politique avec nous. Et c'est très longtemps après que j'ai su pourquoi. Hein. Mais ça a été une révolte assez dure, puisqu'il y a eu quand même des étudiants, des lycéens plutôt, qui ont été tués par la police. Mais bon, non, on vivait dans une espèce de bulle, avec d'autres enfants d'enseignants aussi. Hein. Et bon, comme si on voulait nous protéger du milieu ambiant, quoi, où il y avait quand même une contestation très forte, quoi.
Est-ce que vous étiez un grand lecteur, enfant, puis adolescent, et quels étaient vos écrivains de prédilection ?
Alors, j'étais un grand lecteur de livres de poche. Parce que je me souviens que maman Lily, ma reine, me donnait de l'argent de poche régulièrement, et que la première chose que je faisais, c'était de me rendre dans une librairie et d'acheter des tonnes de livres de poche, parce que ça coûtait moins cher que les grands formats. Et donc, dans ma chambre d'enfant, j'avais tout Balzac, tout Maupassant, tout Zola. Bon, ben, j'ai lu tout ça. Hein. Je n'avais jamais lu un livre d'auteur antillais. Quand je suis arrivé en France pour faire mes études à 18 ans, je n'avais jamais lu un auteur antillais. Je savais vaguement qu'il y avait un type qui s'appelait Aimé Césaire. Bon, il avait... Mes parents disaient, oui, mais ce qu'il écrit, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, bon, ils étaient... Mes parents étaient quand même très anti-négritude et très anti... ouais, c'est un roi africain, vu que la Martinique devient indépendante, pour devenir comme Bokassa, en fait. Bon. Et donc, bon, chez moi, je n'avais pas de livre antillais. Non. Et donc, c'est quand je suis arrivé en France... que j'ai découvert Fanon. Je savais vaguement qu'il y avait un type qui s'appelait Fanon. Bon, Césaire et tout. Donc c'est une éducation littéraire entièrement française, mais qui m'a été bénéfique parce que ces structures s'imprègnent dans votre esprit quand vous lisez les structures d'écriture. Les gens me demandent souvent, mais comment vous faites pour écrire ? Je leur dis, mais si on ne lit pas, on ne peut pas écrire. On ne peut pas écrire, c'est pas possible. Parce que la lecture, c'est comme un entraînement, c'est comme un foot professionnel. S'il ne se lève pas le matin à 5 heures pour aller s'entraîner, il ne va pas devenir Ronaldo. donc, c'est pareil pour la littérature. La lecture, c'est de l'entraînement. Et les structures viennent tout naturellement.
Vous avez été au lycée Schœlcher, comme Aimé Césaire. Vous avez passé un bac littéraire, vous l'avez dit. Est-ce que vous vous sentiez bien dans cet établissement qui a connu quand même pas mal de personnages illustres, hein ?
Oui, je me sentais bien dans cet établissement, parce que faut dire qu'à l'époque, c'était un établissement d'élite. Je donne souvent cet exemple. Tous mes enseignants étaient des agrégés. Et c'était tous des Antillais. Alors c'est étonnant. On est en 1967, 68, 69, 70, seconde, première, terminale. Ça montre vraiment que c'était une élite, quoi. La plupart des gens n'accédaient pas au lycée à l'époque. Hein. Alors il y avait deux lycées. Un lycée religieux, privé, où les blancs créoles mettaient leurs enfants, qui s'appelait le séminaire collège. Puis il y avait le lycée républicain, laïque, le lycée Schœlcher, dans lequel j'étais. Et j'ai eu des professeurs extraordinaires. Ils étaient tous... Ça ne se produit plus aujourd'hui. On ne peut pas avoir une classe et puis tous les profs sont des agrégés. Mais c'est ce que j'ai eu en seconde, première et terminale. Donc c'était vraiment un lycée de classe, quoi. Et bon... C'est après qu'on s'est rendu compte de ça, on a réfléchi, mes camarades et tout, des années après, quand on s'est rendu compte, on dit mais ça n'existe pas, mais comment ça se fait? Mais c'est parce que le lycée Schœlcher voulait rivaliser avec l'autre lycée et lui damer le pion. Hein. De toute façon, les fils des blancs créoles n'avaient pas besoin de faire d'études. Parce qu'ils héritent des plantations, pourquoi ils vont faire des études, ils vont pas devenir médecin ou avocat, mais ils s'en foutent, parce que même s'ils n'ont pas le bac, ils vont hériter, alors aujourd'hui ils héritent des supermarchés, des stations-service, des concessions automobiles, ils n'ont pas besoin de faire d'études. Donc les gens qui ont besoin de faire des études, c'est pas les béquets, c'est pas les blancs créoles. Mais quand même, ils allaient jusqu'au bac. Mais bon, c'était pas important pour eux, tandis que pour nous c'était important, parce que nous n'avions pas de capital sur lequel nous appuyer, ou si peu. Dans mon cas, c'était très peu, quoi. Une trentaine d'hectares de canne à sucre, une petite distillerie qui a fermé. Bon. L'école était notre seule planche de salut.
Merci beaucoup, Raphaël Confiance. C'est la fin de notre premier épisode. On se retrouve rapidement pour la suite de Ma Parole.
Pour réécouter Ma Parole, tapez le portail des Outre-mer et cliquez sur l'onglet radio.